Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2. Vous posez vos questions dès maintenant. Le sujet est compliqué, mais là, on vous offre la possibilité de comprendre quelque chose qui va régir votre vie de tous les jours d'ici une quinzaine d'années, maximum, hein. Vers même d'ici 5 ans, mais je vais essayer d'être optimiste. Jibus est là pour répondre à vos questions. D'ailleurs, Nicolas nous a appelé. Nicolas, bonjour.
Bonjour. Voilà, moi je suis créateur de logiciels de musique. Et en fait, j'avais une question, parce que je découvre un petit peu le sujet. J'avais une question pour votre invité. Je voulais savoir je vais donner un exemple en fait assez simple. Si par exemple demain il y a une grosse société concurrente de la mienne qui dit voilà nous brevetons le concept de boîte à rythme en logiciel, est-ce que j'ai quelque chose à craindre d'une chose comme ça?
Tout à fait. C'est le genre de choses qui peuvent complètement être breveté et effectivement s'il y a un brevet dessus, il y en a peut-être déjà un, mais c'est très difficile de le savoir. Il faut rechercher dans les bases de brevets de l'Office européen des brevets.
Oui, mais ça serait un brevet si par exemple, parce que la boîte à rythme ça existait bien avant les ordinateurs, donc est-ce que ça pourrait être aussi un brevet disons d'une machine réelle qui pourrait être transférée comme ça au niveau du droit, au niveau informatique et logiciel?
Tout à fait. En fait, les brevets portent sur les concepts qui peuvent être mis en œuvre par des logiciels. Et le fait de mettre en œuvre une boîte à rythme dans un logiciel est un concept qui peut être totalement breveté. Et il y a à craindre de ça.
D'accord. Donc, faut être le premier à breveter.
Alors, ça peut être une solution, ce qui est pas celle que l'on préconise. Il vaut mieux, en fait, que, pour le moment, en fait, ce genre de brevet est interdit par le droit en Europe. Il y a un problème là-dessus, et c'est pour ça que la FFI, dont je fais partie, se bat contre une directive européenne. Il y a un problème parce que l'Office européen des brevets a déjà accepté de tels brevets, alors que le droit l'interdit.
D'accord.
Ce qui fait que pour le moment, en fait, les détenteurs de brevets ont des réticences à attaquer et à faire valoir leurs brevets.
Oui.
Mais dès que la législation permettra à ce type de brevet d'exister, on peut s'attendre à voir nombre de procès, comme il en existe actuellement aux États-Unis, mm-hmm. où là, les brevets logiciels sont autorisés.
Ça fait penser au brevetage du vivant, en fait, aux techniques.
Tout à fait. En fait, dans les deux cas, le brevet permet de s'accorder des droits et de contrôler l'information, puisque dans les gènes et le vivant, tout ce qui est en jeu, c'est de l'information génétique.
Oui.
Ici, c'est de l'information pure. Un ordinateur, ça traite de l'information. Une boîte à rythme, c'est une information en termes de fréquence, de forme, d'ondes sonores. Eh bien, les brevets permettent de contrôler qui peut utiliser cette information, comment l'utiliser, avec quel moyen l'utiliser, c'est-à-dire avec quel logiciel la traiter.
Oui.
Et c'est ce genre de danger qui peut advenir en Europe si la directive sur les brevets logiciels est adoptée.
D'accord, ce serait adopté par qui? C'est la commission?
On va y venir peut-être tout de suite. C'est une directive donc de l'Union européenne qui, alors c'est peut-être un peu technique dans le langage des procédures juridiques dans l'Union européenne. C'est une directive qui revient dans une procédure de codécision, c'est-à-dire que la Commission européenne propose un texte qui doit ensuite, et le Parlement européen et le Conseil de l'Europe doivent ensuite s'accorder pour amender éventuellement ce texte et aboutir à une directive.
D'accord, et pour l'instant on en est juste à l'étude en fait du texte, c'est ça?
On est en pleine navette en fait entre le Parlement et le Conseil. Le Parlement a déjà voté en septembre 2003 des amendements que nous soutenons pleinement et qui retournaient complètement le texte proposé par la Commission. en définissant des limites claires qui excluent totalement les logiciels de la brevetabilité. Donc c'est passé maintenant entre les mains du Conseil qui doit se prononcer là-dessus. Mmh. Alors le Conseil, il se prononce, en fait, il doit adopter une position commune, ça se fait en deux temps. Il y a déjà un accord politique entre tous les ministres présent au Conseil. Pour la France, c'est le ministre de l'Industrie qui représente la France. Et tous ces ministres se sont mis d'accord en mai 2004 sur un texte qui a malheureusement ignoré tout ce que le Parlement avait introduit au bout d'un an de travail très scrupuleux, qui avait bien étudié le sujet. Les ministres, ma foi, ont balayé ça du revers de la main et ont adopté un texte très extrémiste qui autorise en pratique des brevets sur n'importe quel logiciel. Maintenant, il faut qu'ils entérinent cet accord dans une position commune, et depuis mai 2004, ils ont beaucoup de mal à le faire. Je pense qu'on y reviendra au cours de l'émission. Il y a pas mal de pays, de parlements nationaux qui se sont élevés contre ça. Et à ce jour, le Conseil n'a toujours pas adopté de position commune.
D'accord. Et au niveau de... S'il finissait par en adopter une et une mauvaise... qu'est-ce qui se passerait au niveau de l'antériorité?
Alors,
c'est-à-dire des logiciels qui utilisent déjà des techniques et qui se retrouvent face à un brevet, en fait.
Alors, tout d'abord, ça serait pas la fin de la procédure législative, ça reviendrait au Parlement en deuxième lecture, puis ensuite au Conseil, ensuite il y aurait une conciliation, mais si au bout du compte, un texte qui autorise les brevets est adopté, en fait, tous les brevets qui ont été déposés aujourd'hui à l'Office européen des brevets, il y en a plus de 30 000, deviendraient applicables, c'est-à-dire que les détenteurs de ces brevets pourraient faire valoir leurs droits. Mmh. Et puis il y en a...
Alors vous disiez tout à l'heure que le dépôt de ces brevets en fait n'a pas été fait de manière légale parce qu'il n'était pas... c'est ça que je crois que vous décriviez, non ?
En fait, l'Office européen des brevets, qui est une instance qui n'est contrôlée démocratiquement par personne, les gens qui siègent à l'Office européen des brevets, ce sont des examinateurs des offices nationaux, comme en France l'INPI, qui n'ont aucun contrôle démocratique, et qui, ma foi, ont tout intérêt à accepter des brevets, parce que ils sont rémunérés, en fait, sur les brevets qu'ils acceptent. Qu'il y a un brevet accepté, il y a des redevances qui tombent tous les ans. Et puis, ces offices ont des obligations de rentabilité. C'est même défini par la loi en France, dans le code de la propriété intellectuelle. L'INPI doit être rentable. Donc, pour être rentable, évidemment, ils acceptent le maximum de brevets possible. En étudiant pas forcément, c'est très difficile d'étudier si un brevet est acceptable ou pas, notamment dans le cas des logiciels.
Faire des recherches, etc.
Et les études ne sont parfois pas poussé à fond. C'est comme ça que, par exemple, un brevet sur la boîte à rythme pourrait très bien être accepté, malgré que on fait des boîtes à rythme de manière matérielle depuis très longtemps et qu'il n'y a pas de nouveauté d'inventivité qui permettrait de détenir un brevet là-dessus. Mais si on n'a pas les moyens de tellement chercher s'il y a cette antériorité, et si on est un peu poussé à accepter le brevet sera accepté.
D'accord. Et par exemple, moi, j'utilise, par exemple, pour me protéger au niveau du droit d'auteur, j'utilise l'IDDN, qui est un office européen de protection assez répandu.
J'ai pas compris
l'IDDN.
IDDN.
C'est Interdeposit Digital Number. Je sais plus trop le. C'est IDDN.org en fait.
D'accord.
Dans lequel vous pouvez marquer électroniquement un fichier et avoir une garantie comme ça sur l'antériorité au niveau de l'auteur, enfin de la création en elle-même. Quand un auteur se retrouve face à un brevet, qu'est-ce qui prévaut? Est-ce que c'est l'antériorité du brevet ou c'est l'antériorité de la création?
C'est une excellente question, en fait, parce qu'il y a conflit, en fait, entre ces deux types de protection qui sont le droit d'auteur et le brevet. Si le droit d'auteur est déposé, et ça se fait de manière automatique, dès que vous écrivez une œuvre, qu'elle soit littéraire, sonore ou un logiciel, elle est protégée. Partout en Europe et même dans le monde, c'est défini en fait par la Convention de Berne qui définit le droit d'auteur. C'est repris par plusieurs traités internationaux de l'OMC ou etc. Et donc, pour le dépôt de droits d'auteur, il n'y a pratiquement aucune démarche à faire et ce n'est en général pas payant. L'œuvre est protégée dès qu'elle est écrite. Pour le brevet, il y a des démarches très coûteuses à faire. Il faut le déposer auprès d'un office, il y a des redevances à payer, il faut payer une examination permettant de déterminer s'il y a bien une invention ou pas. Donc c'est beaucoup plus coûteux. Et en fait, une œuvre ne peut pas être, ne devrait pas normalement être protégée et par le droit d'auteur et par le brevet. C'est quelque chose qui a été défini dans différents traités internationaux également. C'est ce que je disais au sujet de la littérature. On peut très bien protéger les misérables en empêchant d'écrire une histoire, même si le héros s'appelle Adam au lieu de Gavroche, une histoire qui raconterait, je sais pas moi, la lutte dans les barricades au 19e à Paris. Ça, c'est protégé par le droit d'auteur et il n'y a pas lieu d'avoir de brevet là-dessus. Mais la limite en fait entre ce qui est très précis et pur plagiat et puis utilisation des mêmes idées beaucoup plus générales qui sont derrière ces œuvres est très difficile à voir et c'est cette même limite qui détermine ce qui peut être protégé par droit d'auteur et par un brevet.
D'accord. Et en cas de conflit, qu'est-ce qui se passe en fait? Il y a un conflit évident entre un droit d'auteur et un brevet. J'ai vraiment peine à imaginer en fait ce qui pourrait se passer. Est-ce que ce serait des procès en série comme ça ou...
Effectivement, ça serait des procès en série et malheureusement le droit des brevets a tendance à primer sur le droit d'auteur, certainement parce qu'il est beaucoup plus rentable.
Ouais.
Et donc, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que les brevets dénient le droit aux auteurs de faire leur travail et d'écrire leurs œuvres. C'est ce qu'on revendique en tant que développeur de logiciels. Tout ce qu'on veut, c'est pouvoir être libre de travailler normalement et d'écrire des programmes.
Ouais.
Voilà, Nicolas.
Ben, merci beaucoup, hein, c'était très éclairant.
Merci à toi et bonne chance.
Merci, bonne journée.
Au revoir.
Au revoir.
Vous écoutez Radio Ici et Maintenant, 95.2, vous pouvez comme Nicolas poser vos questions à Jibu, c'est un sujet compliqué effectivement, mais profitez-en, vous ne le voyez pas dans le petit écran et vous n'êtes pas passif, vous êtes actif, vous avez des questions à poser, 08 92 23 95 20.